Slate Podcast.
Bonjour, c'est Kate Evan de l'équipe Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et des podcasts. D'ailleurs, Transfert, c'est le podcast par excellence. C'est devenu pour moi un rendez-vous incontournable. Oui, je sais, j'aime m'immiscer dans la vie de parfaits inconnus. Si vous appréciez aussi cette relation intimiste, je vous conseille d'écouter le livre audio Petit Pays, écrit et interprété par Gaëlle Faye. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert.
Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré, si vous en avez dans vos amis, si vous en êtes vous-même, de ces séducteurs et séductrices dont tout le monde tombe toujours très vite amoureux. Ces gens qui mettent tant d'énergie à séduire, à se faire aimer, à rendre la vie plus belle, plus légère, plus excitante, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils sont des puits d'amour sans fond, par plaisir, par jeu, parfois même sans faire exprès, qu'ils vous emportent dans leur halo de lumière. Conquérir est notre métier, dit Valmont, l'un d'entre eux, dans Les Liaisons dangereuses. À la marquise de Merteuil, il parle dans l'une de ses lettres de mission d'amour. Ces porteurs de ces missions, par douceur ou par machiavélisme, sont des êtres à part, qui excitent les sens. Et il faut être héroïque pour ne pas céder, comme la présidente de Tourvel, aux alarmes de six puissantes sirènes. Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Média. Et cet épisode a été réalisé par Lison Verrier.
Là, j'habite en Belgique et j'ai une amie qui est hôte couchsurfing qui m'appelle et qui me dit « Oui, je viens de recevoir un couchsurfeur américain. Il fait le tour de l'Europe à vélo, il est super sympa et il me dit qu'il doit passer par Bruxelles. Je voulais te demander, est-ce que je peux lui donner ton contact ?» Je lui dis « Bah non, pas de souci. Envoie-moi son Facebook, je vois un peu l'énergumène et puis je te dis. » Je fais un petit tour sur le Facebook du dit américain. « Ok, c'est safe. » Et vraiment, mais le moment où il passe la porte là, avec son énorme vélo, le mec fait presque 2 mètres de haut. Il a un grand sourire, il est très, très solaire, vraiment. Et donc, on passe juste 10 minutes, je lui explique un peu le truc. Moi, j'avais un truc de prévu dans la soirée, donc je lui dis, bah, écoute, je te laisse tout seul, tu vas dormir tranquille. Mais 10 minutes de conversation avec lui, et j'étais déjà en mode, limite, j'avais envie d'annuler ma soirée, parce qu'il avait l'air super intéressant, il était hyper positif, et moi, ma soirée, elle était pas folle, quoi. Mais bon, il était épuisé, il m'a dit « Ouais, je vais me coucher tout de suite. » Donc le lendemain matin, je reviens, à 13h, il se réveille, on se pose vite fait dans le jardin et on commence à papoter. Et alors, truc que j'avais pas prévu, mais en fait, on parle toute la journée, jusqu'à 5h du matin, on papote. Et il était super intéressant, en fait, il était hyper ouvert d'esprit. Enfin, c'était vraiment le cow-boy, quoi. Le cow-boy qui était arrivé directement de ses États-Unis natales, qui avait fait des jobs de saisonnier dans les fermes. Et le lendemain, c'était un samedi, j'étais assistante de production sur un gros spectacle burlesque à Bruxelles. Et je lui dis, bah écoute, si tu veux, moi officiellement j'ai une place, mais bon, je vais passer ma vie à courir et tout ça. Donc si tu veux, je te donne ma place et tu assistes à un spectacle de burlesque à Bruxelles, ça va être sympa. Putain, c'est génial, j'ai jamais vu ça, carrément. Et à la sortie, il arrive et me dit, meuf, c'était génial, quoi. C'était ouf, c'est génial, je me suis éclatée, non mais les gens sont dingues, mais comment j'ai pu ne pas voir ça avant? Et donc on rentre chez moi, donc il doit être quoi, minuit? Une fois de plus, on parle jusqu'à 5h du matin, quoi. Le lendemain, donc, on se retrouve et ça part sur des sujets plus intimes. Donc, on parle de sex-positivisme, du fait qu'aux États-Unis, la seule éducation sexuelle qu'ils ont, c'est l'abstinence. On parle de ça et il me dit « Oui, mais moi, j'ai participé à des groupes de body-positivisme. J'ai fait des expériences de soirées cuddle, et donc ça veut dire des soirées câlins, où il y a plein de gens qui se retrouvent dans un endroit secret, avec mot de passe et tout. ils passent une bonne soirée. Et à un moment, ils vont tous se coucher ensemble comme un gros tas de petits chiots, les uns contre les autres, en mode gros câlin collectif. Et ils s'endorment comme ça. Et le lendemain, tout le monde reprend ses affaires et retourne à ses pénates. Ok, d'accord, ça a l'air fou. Quand on est des gens indépendants, etc., bah, des fois, ce qui manque, c'est un peu la chaleur humaine. Et je lui dis, bah, écoute, si tu veux, mon lit est grand, on peut faire une cuddle party tous les deux. Et il me dit, allez. Donc, on part se coucher. On s'enlace et on s'endort. Et puis, le lendemain matin, on se réveille et tout. Et il m'embrasse. Moi, sur le coup, je suis un peu surprise. Et puis, je me dis, oh, bah, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et ça finit en journée galipette, quoi. Et puis... Puis, je sais pas, il est assez tôt et il me dit oui, bon, par contre, ça fait longtemps que je suis restée en Belgique, plus longtemps que prévu, je vais repartir demain, du coup, ce serait bien qu'on se couche tôt parce que je pars à 6h du matin, comme j'ai quand même 80 km de vélo à faire. Et moi, je me dis, ah, mais c'est mort, mais je vais pas te laisser partir, mec, c'est pas possible. Donc, je commence à faire péter les bouteilles de vin et en fait, je lui arrête pas de lui poser des questions sur lui. Il me raconte tous les trucs insolites qu'il a fait en Europe. Et je dis, mais comment t'as fait pour trouver ces trucs-là en Europe ? Alors que tu connaissais personne ou très peu de gens. Et il me dit, bah, j'ai utilisé Atlas Obscura. Et en fait, c'est le Wikipédia de l'insolite dans le monde. Donc, on tape simplement le nom d'une ville ou d'un pays et ils nous font la liste de tous les trucs un peu étranges ou insolites à voir ou à visiter dans les alentours. Putain, c'est fou, viens, on regarde ce qu'il y a en Belgique. Et là, on tombe sur des trucs, notamment un spot d'urbex qui est assez fou parce que c'est, en fait, c'est une cheminée de refroidissement d'une centrale thermique au charbon. Et le truc est complètement désaffecté. Et ça a servi, en fait, de scène pour le Sénat galactique dans la prélogie Star Wars. Donc, il me dit, putain, c'est absolument génial. Faut qu'on voit cet endroit. Moi, je lui dis, bah, après, moi, j'ai une voiture. On peut le faire ensemble, quoi. Ah, putain, c'est génial comme idée. Ah, mais alors, du coup, regardons d'autres trucs. Et on commence à regarder tout ce qu'il y a d'autre. Et de fil en aiguille, on se prévoit une sorte de mini road trip de 2 jours. Donc, on prépare sa tente, on se fait une liste de tous les trucs qu'on veut faire et tout. Et on va se coucher. Donc, le lendemain, on prend la voiture et on part à cette tour de refroidissement. On arrive à cette tour. Donc, il y a un grand escalier pour monter au seul étage, on va dire, à la plateforme officielle de la tour. Et la porte est soudée. Et il me regarde, il me dit, bah, je sais pas comment on va faire, quoi. Je dis, bah, écoute, bah, on va faire le tour. Il y a peut-être un autre moyen de rentrer. Donc, effectivement, on redescend, on commence à faire le tour. Et quand on arrive côté rivière, en fait, c'est comme si la tour, elle était sur des pilotis de béton. Et on voit ça et on voit qu'il y a, en fait, des pneus qui ont été mis comme un chemin de pneus qui s'enfonce comme ça sous ces pilotis de béton. Et je lui dis, bah, écoute, apparemment, on n'est pas les premiers. On tente, quoi. Donc, on commence à aller sur ce chemin de pneus. Du coup, c'est des pilotis de béton et des barres transversales en béton. Et lui, il passe au-dessus parce qu'il fait 2 mètres de haut. Moi, je passe pas en dessous parce que je fais moins d'1,60 m. Donc, vraiment, on passe comme on peut. Et arrivé, je sais pas, peut-être à mi-chemin, en fait, il regarde au-dessus et il se retourne vers moi et me dit, je suis désolée, mais en fait, c'est inondé après, quoi. Et là, je me tourne vers lui et je lui fais, ah, bah, va falloir enlever les chaussures et les chaussettes. Hein. Et il explose de rire. Et en fait, là, il me sort, mais d'une façon mais tellement innocente et naturelle. Il me dit, oh, là, je t'aime. Et moi, je le regarde et je lui fais, je sais. En fait, à ce moment-là, on a une espèce de petit flottement où on se regarde, genre droit dans les yeux, où lui il réalise qu'il m'a dit je t'aime comme ça, quoi. Et moi, je lui dis je sais, ce qui est en fait, pour les fans de Star Wars, très Han Solo et Princesse Leia, quoi. Ça pourrait être totalement anodin de dire je t'aime, je sais. Sauf qu'à ce moment-là, vraiment, on se regarde et on est sous le Sénat galactique de Star Wars. Il y a un petit côté genre. Ah, est-ce qu'il vient de se passer ce qui vient de se passer? Et oui, je pense qu'on s'est tous les deux bien compris. On était en mode genre, allez, ouais, laissons-nous porter, pourquoi pas. En gros, vient de se dire qu'on s'aime, quoi. Ça fait 3-4 jours qu'on se connaît, quoi. Mais pourquoi pas. Et donc, bon, on enlève nos chaussures, nos chaussettes, etc. Et on commence à les patauger dans la boue. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, j'ai un petit mot, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi? C'est ridicule, tu patauges dans la boue à Charleroi avec un mec que tu connais pas, à qui tu viens de dire je t'aime. Tout va bien. On arrive enfin au centre de la tour. Et là, ça valait tellement le coup, en fait. Il y a une sorte de grosse colonne centrale. Et au-dessus, donc, il y a cette tour qui s'ouvre complètement sur le ciel. Donc, on a une lumière comme ça qui tombe autour de la plateforme circulaire, à travers cette dentelle de poutre, sur l'eau qui se reflète sur les parois. Enfin, genre, la lumière est folle. L'acoustique est dingue. Il y a un silence total. Ça sent la poussière. On traverse. On fait tout le tour. On grimpe sur cette espèce de berge. Et là, monsieur avait pensé à prendre son saxophone. Et il commence à jouer. Et on rentre donc de ces deux jours, on va directement se coucher. Et le lendemain matin, mais genre à 6h30 du matin, quelque chose comme ça, il me réveille. Et je dis, bah, qu'est-ce qui se passe et tout? Je suis complètement dans le brouillard. Et il me dit, oui, c'est pour te dire, j'y vais, je te dis au revoir. Et moi, je suis choquée et je le regarde, je fais, comment ça, tu y vas, quoi? C'était pas prévu. Il me dit, bah si, quand même, c'était prévu et tout. Et je dis, bon, alors attends, je me lève, je vais faire un café, je vais nous faire un petit déj. Je lui dis, non, c'est bon, j'ai mangé, mes affaires, elles sont prêtes, je suis prêt à partir. Le vélo, il est dans la rue. En fait, je te disais juste au revoir, quoi. Et moi, sur le coup, je suis dans les vapes. C'est tellement brutal et brusque, je me mets un peu à pleurer. Je dis, oh, mais tu peux pas partir moi, comme ça, c'est pas possible. Il fallait me préparer psychologiquement. Et là, il prend ses bras, il me dit, non, mais j'aime pas les au revoir et tout. Et puis, t'as vu comment ça se passe chaque fois que j'essaye de te prévenir, après, je reste. Tu trouves toujours un truc à faire, c'est pas possible, je partirai jamais sinon. Du coup, bah, je l'accompagne dans la rue, on s'embrasse, je lui dis, bon voyage, voilà. Et je le vois partir sur son vélo. C'était une scène, mais digne d'un film ou d'un Lucky Luke ou quoi. Il part avec son chapeau comme ça, sur son vélo, vers le soleil levant. Et moi, je le regarde partir et je me dis, à bientôt, Space Cowboy. Salut, c'était bien. Je rentre chez moi et... En fait, je crois que c'est le moment où je commence un peu à digérer. C'est-à-dire qu'il est... Ça y est, il a disparu. En plus, il a gentiment tout rangé avant de partir, donc il y a plus tellement de traces en fait de son passage. Vraiment, je rentre, je me pose et je regarde autour de moi et je me dis mais est-ce que je viens de vivre ce que je viens de vivre, quoi. Donc j'appelle ma meilleure amie pour lui donner mes nouvelles déjà parce que ça fait une semaine que j'ai disparu et je lui dis mais je viens de vivre un truc fou avec un couch surfeur américain, voilà ce qu'on a fait et elle me dit mais c'est incroyable et tout, mais tu le connais pas, enfin c'est un vagabond, tu pars comme ça et tu préviens personne. Je dis bah si, mais si, je t'ai dit vaguement que j'avais. Elle m'a dit oui, mais tu m'as pas dit que vous aviez une histoire d'amour, que vous partiez. Et là je commence enfin en fait à faire le bilan. Toutes mes copines à Bruxelles, elles n'ont retenu qu'une seule chose, c'est que c'était un clodo qui pue. Et je me disais mais c'est fou, enfin il y a que moi qui ai vu qu'il était fou, qu'il était intéressant. Il nous emporte mais tellement facilement. Il a cette façon de parler, de nous emporter, même si on ne comprend pas la moitié des expressions qu'il utilise. Et il a un tel sourire, il a une façon de faire les choses qui est tellement naturelle que c'est vraiment un troubadour. On se laisse complètement emporter dans son histoire. On se laisse emporter avec lui. On a envie d'être lui, on a envie d'être avec lui. C'est ses personnalités solaires. Tant qu'il nous regarde, on a l'impression qu'on est le centre du monde. Et puis le moment où il se détourne, on a froid et on se dit « Non, mais reste sur moi, regarde-moi. » J'étais fascinée par ce garçon. Et pour moi, c'est clair que le moment où je l'ai vu partir vers soleil levant, c'était fini, j'entendrai plus jamais parler de lui. Et tant mieux, au final, parce que c'est effrayant, en fait. Ça donne un peu le vertige de se dire, mais comment je me suis laissée happer dans cette vie, par cette personne, si vite, si fort. Mais il se trouve qu'il m'a envoyé des messages. Il se trouve qu'il a commencé à m'envoyer des messages pour me dire... C'était super, merci beaucoup, voilà, je vais là, je fais ça. Et puis, ça continue comme ça. Et moi, à chaque fois, je suis un peu en mode tout le temps, bon, ça va s'arrêter, à un moment, ça va s'arrêter. À un moment, il commence à me renvoyer des messages, mais beaucoup. Très franche, comme ça, je dis, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça s'éteignait tranquillement, là, ça allait se finir tranquillement. Et d'un seul coup, tu reprends la conversation, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens seule? Il me dit, mais non, je vois pas de quoi tu parles, t'es ma plus belle aventure européenne et tout. Alors, je dis, c'est sa plus belle aventure. Et il commence à me dire, écoute, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup te revoir avant de partir. Et il me dit, est-ce que ça te dit, j'ai prévu de finir mon trajet à Lisbonne, est-ce que tu voudrais me retrouver là-bas? Et je dis, écoute, oui, c'est l'été, je peux prendre une semaine de vacances et je te retrouve à Lisbonne. Donc, il me dit, super, donc fin août, début septembre, je vise pour être là-bas et je repartirai de Lisbonne. Il me dit, si je trouve les moyens de me payer le billet de retour, parce que c'est un peu compliqué et tout. Je dis, comment ça? Oui, j'ai pas trop de sous, je sais pas trop comment je vais gérer le budget et tout. J'ai fait une cagnotte sur Facebook. Moi, je vais voir sur Facebook et je lui mets des sous sur sa cagnotte. Je lui dis, t'inquiète pas, je vais t'aider et tout. Et puis, on se retrouvera à Lisbonne, il n'y a pas de souci. Je lui dis en rigolant, je serai ta sugar mama, si tu veux. Et il me dit, oh ben non, mais dis pas ça et tout, quelle horreur. Bon, ok, il n'était pas bien pris, c'était juste une blague. Bon, connaissant l'animal, je vais pas prendre mes billets tout de suite pour Lisbonne, je vais attendre vraiment la dernière minute. Quelques jours plus tard, il me dit, oui, ça y est, je viens d'atteindre le kilomètre zéro donc, du chemin de pèlerinage, je suis à Finisterre en Espagne. C'est génial, il y a une super communauté de hippies, je m'éclate, c'est trop bien, c'est trop bien. Et puis, les jours continuent de passer, on arrive à 10 jours avant, et je lui dis, bah, t'es où ? Et il me fait, bah, je suis toujours à Finisterre, c'est tellement bien, j'ai pas pu partir. Du coup, on se met d'accord, je lui dis, bon, écoute, je vais prendre un billet, parce qu'il faut que je le prenne maintenant, mais je vais le prendre pour Porto. On fait ça, je prends un billet pour Porto, donc on est 10 jours, une semaine avant la date. Donc autant dire que je paye plein pot. 3 jours avant, on s'envoie des messages et tout, et je lui dis, mais alors t'en es où ? Et il me dit, ben, en fait, je suis toujours à Finisterre. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous à Finisterre ? Enfin, on avait dit qu'on se retrouve à Porto. Enfin, il faudrait peut-être commencer à démarrer, en fait. Et il me dit, ben, en fait, je t'avoue, darling, j'aimerais bien que tu me rejoignes à Finisterre. C'est tellement formidable, j'ai envie de te faire découvrir et tout. Et moi, je dis, ben, écoute, non, c'est pas possible. Moi, j'ai pris mon billet pour Porto. Ça me coûterait aussi cher de le faire changer. De toute façon, il n'y a pas d'aéroport à Finisterre, hein. J'ai qu'une petite semaine parce que j'ai un projet qui commence bientôt. Donc, c'est vraiment serré. J'ai envie de passer le plus de temps possible avec toi. Je n'ai pas envie de le passer dans des bus. Et il me dit, ah, mais allez, suffirait que tu loues une voiture. En 3 heures, tu y es, c'est bon et tout. Je dis, non, mais t'es sérieux, là ? Enfin, je dis, non, mais t'es gentil, mais non, quoi. Enfin, je ne suis pas Crésus non plus. T'abuses. Je dis, écoute, si c'est comme ça, puisque tu me fais un caprice... j'irai à Porto, avec ou sans toi, et je passerai des bonnes vacances avec ou sans toi. Tout de suite, il se calme, et il me dit, mais non, bien sûr, c'est toi que j'ai envie de voir, c'est toi la plus importante, je te rejoindrai à Porto, t'inquiète pas, je serai là. Ok. Vient le jour J, j'arrive à Porto, et je lui envoie un message, je lui dis, bon, je suis dans le train, j'arrive en centre-ville, t'es où ? Et donc, il m'envoie une adresse obscure dans la vieille ville et tout. J'arrive donc devant ce vieux bar, en fait. Et donc, il est de dos à moi. Il est en train de jouer aux dames avec un vieux local, quoi. C'est marrant parce qu'en fait, je dis pas que je suis là. J'observe dans un premier temps, avant même qu'il sache que moi, je suis ici. Il y a ce côté où, je sais pas, si je touche, est-ce que je vais repartir dans la même folie ? Il finit sa partie et donc le vieux avec qui il jouait lève les yeux, donc il se retourne et il me voit et là il a un immense sourire. C'est la première fois que je me dis que je le trouve beau. Ça fait des semaines qu'il est sur la route, il est tanné comme du cuir. Et du coup ses yeux bleus, il pop, on dirait le gars qui joue dans Mon nom est personne, le western. Mon Dieu quoi, il met ses mains autour de ma taille, il me serre contre lui et moi je suis, ça y est c'est fini quoi, le sort est relâ. Il me prend par la main, ce que je trouve absolument adorable à chaque fois. Et il m'emmène dans une pâtisserie juste à côté où on va acheter les fameuses pastilles de nata. Et je le regarde et je dis, bah alors raconte-moi ta fameuse plage de hippie. Et alors il commence à partir sur Finisterre, il me raconte. Il a ses yeux bleus qui pétillent, il a un grand sourire, vraiment. Bah, il y a le soleil qui émane de lui. Et il commence à me dire, oui, bah voilà, j'ai trouvé une pension à Porto, etc., où on pourra dormir. Et en fait, le moment où il cesse de parler de Finisterre, il se tourne vers moi. Il me regarde dans les yeux et il y a comme une ombre en fait qui est passée. Et ça me brise le cœur en fait. Je suis en mode genre, oh non, j'ai envie de voir ce sourire encore, j'ai envie de le voir, mais tellement heureux, j'adore le regarder, être heureux en fait. Et du coup, bah, là je prends une décision folle parce que c'est fini. La lucidité, être raisonnable, tout ça, c'est à la poubelle, c'est fini, j'y pense plus. Et je me lève, je le prends par la main et je lui fais, allez viens. Et genre je marche, je mets Google Maps et tout machin, je cherche et je l'emmène à la gare. Parce que quand je suis arrivée à la gare, qui n'est pas très loin, j'ai remarqué qu'il y avait un Sixte donc pour la location de voiture. En 30 minutes, toute l'histoire est réglée, on a les clés, on rentre dans la voiture, on s'assoit. Et là, je me tourne vers lui et je lui dis, on va où ? Et là, il me dit, oh, à Finisterre, darling. Et il a de nouveau mais ce sourire, il est tellement heureux. Et moi, je suis tellement heureuse de l'avoir rendu heureux, j'en ai plus rien à foutre. J'ai mis toutes mes économies là-dedans, mais tant pis. Et donc, on commence à prendre la route. Donc, il y en a pour 3 heures. En plus, les routes portugaises et espagnoles, elles sont bordées d'eucalyptus. Le soir commence à tomber. Et lui, il commence à me raconter tout ce qu'on va faire, etc. Donc, on arrive sur Finisterre. Moi, il m'en a fait un tel récit que je m'imagine vraiment la petite cité balnéaire, un peu loin de tout, des touristes. J'imagine vraiment un truc dans un écrin de roches et de végétation et de mer et tout ça. Et en fait, on arrive dans un bled un peu moche. Bon, ok, alors bon, je l'écoute. Et il commence à me donner des directions et tout pour aller à la World Family. Donc la World Family, c'est un peu le QG des hippies de Finistère. Et on arrive enfin, en fait, on se gare près du bar. Et moi, je vois le bar. Le bar, c'est des parpaings qui sont peints avec des trucs un peu New Age et des arcs-en-ciel, un peu faits par des gens qui ne savent pas dessiner. Devant, il y a 3-4 rastas blancs en sarouel poussiéreux en train de fumer des spliffs comme ça, qui sont assis sur le trottoir, qui prennent toute la place. Et je me dis, mais moi, j'arrive avec ma petite robe d'été de bourgeoise, mon petit sac, mon petit machin, mes petits cheveux. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'était une erreur. Ça va être une catastrophe. Je ne vais jamais m'intégrer. Puis est-ce que j'ai envie de m'intégrer à ça? Je ne sais pas et tout. Sauf que je n'ai pas du tout le temps de réfléchir parce que lui, il m'a pris par la main. Il leur fait des grands signes. Tout le monde l'a reconnu. Ils sont, ah, c'est l'Américain, il est revenu et tout. Et il me traîne comme ça derrière lui. Et je me dis, bon, écoute, de toute façon, t'y étais, c'est trop tard. Ils t'ont vu, tu ne peux plus te cacher. Et donc, je me dis, bon, bah écoute, éteins ton cerveau et puis suis le mouvement, quoi. Tout le monde est absolument adorable. En plus, on arrive, c'est l'heure du repas. Et on mange et on boit des bières et tout. Et du coup, je me tourne vers l'Américain. Je lui dis, franchement, je t'avoue, j'ai eu un petit peu peur. Mais en fait, c'est trop bien, quoi. Il me dit, attends, darling, le meilleur est à venir. Il me dit, bon, allez à tout le monde, on va à la Hippie Beach, quoi. Et donc, on commence à marcher, je sais pas, genre 3-4 kilomètres. Il y a un virage. Du coup, on voit pas tout de suite ce qu'il y a derrière. Et là, d'un seul coup, en fait, on est au sommet d'une toute petite falaise. Et c'est le soleil couchant sur la mer, comme ça. Et c'est absolument magnifique. Et on voit un peu en contrebas, effectivement, il y a les hippies qui ont commencé à préparer un grand feu de joie. Le soleil couchant, la plage de sable, la mer, il n'y a personne, c'est calme, c'est beau. C'est vraiment ce qu'on rêverait d'avoir quand on s'imagine aller sur une hippie beach, quoi. Les verres de vin commencent à tourner, les joints aussi. Donc voilà, c'est vraiment toute une ambiance et on est complètement dedans. Bon, en même temps, on est complètement bourré et complètement perché, mais c'est assez fabuleux. C'est vrai qu'à cette soirée, moi, je suis toujours... déjà, je ne me sens pas intégrée encore. Mais une fois de plus, je suis beaucoup dans l'observation de l'Américain qui joue au saxophone, qui fait des blagues à tout le monde, qui connaît tout le monde. Et je vois que j'ai vu la bonne personne. J'ai vraiment vu cette personne qui est hyper fascinante. On se réveille le lendemain matin. On est au deuxième jour, je commence à me transformer en hippie. J'achète une jupe qu'on appelle Goa Fashion. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment ces jupes à volant, comme ça, de toutes les couleurs, avec des imprimés indiennes. Et je me trouve un bandana. Et on passe notre soirée comme d'habitude. On boit, on fume. Et une fois de plus, voilà, ça joue de la guitare. Ça joue No Woman, No Cry. Le lendemain, je sors de la tente. Je vais m'asseoir devant la plage. Je suis un peu agacée de l'Américain. Parce qu'en gros, quand on était dans la voiture... pour aller vers Finistère, il me dit « Mais comment est-ce que je pourrais te remercier de tout ce que tu fais pour moi ?» Et je lui dis en rigolant « Bah, tu me feras un massage, ça me fera du bien. » Et le massage n'est toujours pas arrivé. Alors, ça paraît bénin comme ça, c'est rien, mais ça m'agace. Je me dis « C'est quand même la seule chose que je lui ai demandé. » Donc, bon, je me dis « Mais c'est bon, je ne vais pas m'énerver là-dessus, machin. » Mais j'ai un petit agacement comme ça au fond de moi. Et puis, là, il me rejoint et tout, il me dit « Oh là là, j'ai fait un rêve terrible. J'ai rêvé que tu sortais de la tente, que tu marchais droit vers la voiture et que tu prenais la voiture et que tu partais. » Et je dis « Ah bon, c'est marrant, t'as peut-être senti que j'étais énervée. » Il me dit « Ah bon, mais pourquoi ?» et tout. Je dis « Bah, je sais pas, je t'ai demandé qu'une seule chose depuis qu'on se connaît, c'est de me faire un massage et c'est toujours pas venu. » Et là, il explose de rire et il me fait « Ah, mais si c'est que ça et tout. » Et en fait, c'est bête, vraiment. Enfin, je pars au quart de tour, c'est complètement... c'est trop, en fait, je surréagis complètement. Je me lève comme une furie. Je prends mes affaires et je commence à marcher, mais je pars vraiment furieuse. Finalement, il me rejoint et il a un air, mais goguenard, mais il a une espèce de sourire, il est fier de lui, quoi. Et moi, je me retourne et je le vois avec son sourire, là, comme ça, et je fais « Mais de quoi t'es fier ?» Et en fait, là, il me sort, il avait un petit bouquet d'hortensia bleu, donc les grosses boules comme ça de petites fleurs bleues. Et il me tend ça et il me dit « Je suis tellement désolée, darling. » Et moi, j'explose de rire. Et en même temps, en fait, j'ai toute la pression qui retombe. Je me mets à pleurer. Et du coup, il me dit « Bon, tu sais quoi, j'avais très envie d'aller voir des vestiges romains aujourd'hui. On prendrait une nuit dans une pension. On ferait ça sur 2 jours. Comme ça, on aurait un peu de temps entre nous. On prend la voiture et puis on passe la nuit dans une autre ville. On va dans une pension où on demande une chambre totalement impersonnelle, les murs gris, vue sur un autre mur. » la couverture brune qui gratte. Et puis là, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais en fait, on n'a pas encore été intime à ce stade-là, hein, du retour en Espagne, depuis qu'on s'est vus. À ce moment-là, il veut qu'on couche et genre, il se déshabille très vite. Genre, je ne peux pas le faire moi-même, il faut qu'il le fasse lui-même en 2 secondes. Et en fait, donc, on couche ensemble et c'est absolument horrible. C'est affreux, ça dure 5 minutes, c'est hyper mécanique. Dès qu'il a fini, il se lève et il se casse et il va se laver. Et moi, je reste dans le lit comme ça et je trouve ça bizarre, en fait. Enfin, j'aime pas trop ça. Lui, il revient de la salle de bain, il me voit comme ça, couché, qui n'a pas bougé. Il me fait « t'as pas envie de te laver ?» Mais d'une façon, mais sur un ton où je me sens dégueulasse, en fait. Du coup, je me lève et je vais honteusement prendre une douche. Je pleure dans la douche et en même temps, je me reprends. C'est marrant, comme à chaque fois que je m'éloigne de lui, je commence à reprendre doucement mes esprits. Je commence de nouveau à réfléchir et donc je pleure. Et puis, moi, je me dis mais attends, mais c'est pas normal, quoi. C'est quoi ce sentiment bizarre C'est pas cool du tout. Donc, je sors de là. Lui, il est en train de ronfler. Hein. Je le secoue, je le réveille. Je dis, c'est quoi ton problème, quoi? Il me dit, ah, de quoi tu parles et tout. Je dis, non, mais c'était horrible. C'est simple, je me suis sentie utilisée, quoi. Physiquement parlant, hein, je parle vraiment, j'ai eu l'impression que, voilà, il avait fait son affaire et que moi, j'aurais pu être un bout de viande, c'était pareil. Et alors là, il le prend extrêmement mal. Il me dit, oui, mais tu comprends pas, j'ai des problèmes avec mes parents, je sais pas comment je vais rentrer, ma grand-mère, elle est malade, j'ai plus un sou qui vaille, ça va pas du tout. Bon, je me dis, oui, effectivement, le pauvre, peut-être que je prends pas ça en compte. Puis il me dit, oui, puis c'est quoi cette histoire? Comment ça, je t'utilise? Qu'est-ce que tu crois que j'en ai qu'après ton argent et ta voiture et tout? Et alors, à ce moment-là, je me souviens que j'avais fait cette blague en lui disant, ouais, je serais ta sugar mama. Et je me dis, merde, il a dû le prendre tellement mal, en fait. Je me rendais pas compte sur le coup que c'était hyper malvenu et je me sens super mal. Du coup, à partir de ce moment-là, en fait, j'en parle plus du tout. Et je lui dis, écoute, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, n'en parlons plus, effectivement. J'ai aussi une espèce de réaction bizarre. Comme déjà, il m'a dit qu'il a des problèmes d'argent et qu'en plus, je me sens mal, qu'il ait pu comprendre que je me sentais utilisée pour mon argent. En fait, j'ai le côté où du coup, je deviens d'autant plus généreuse pour montrer que non, c'est pas ça qui me dérange. Et du coup, mais alors, je lui donne du pognon. Alors, c'est-à-dire que je passe au distributeur et je lui mets de l'argent dans la poche directement. Je sais pas ce qu'il en fait, mais il le dépense. On retrouve donc les copains qui nous disent, en fait, on a demandé à la pension qui est juste à côté de la plage. Si on pouvait faire un barbecue chez eux, pendant qu'on mange, qu'on joue encore de la musique. Il y a des gens qui rentrent dans la pension, en fait, qu'on ne connaît pas du tout et qui ne sont pas du groupe, entre guillemets. Et puis, à un moment, ils partent. Et puis, l'Américain revient et il me dit, quand on avait discuté, tu m'avais dit que tu aimerais bien tester certaines drogues. Je regarde, je fais, oui. Il fait, est-ce que ça t'intéresse de tester le LSD ce soir? Et moi, je suis en mode genre, quoi? Je ne suis pas préparée. Alors, oui, je l'avais dit comme ça, mais je ne pensais pas que ça arriverait un jour, en fait. C'est bête, mais je n'ai jamais eu trop d'opportunités. Et du coup, je suis genre, je ne sais pas, mais comment ça va se passer? Mais qui? Mais où? Mais comment? Et tout ça. Et il me dit, calme-toi. Je t'explique. Après, tu me dis, t'as pas envie, comme tu veux. Donc, il m'explique. Alors déjà, tu vas pas prendre une dose complète. J'ai pris une dose pour nous. On va la couper en deux. On va prévenir tout le monde. T'inquiète pas, ils en ont tous déjà pris avant. Donc, ils savent ce que c'est. Ils vont veiller sur nous. On va aller prendre ça tranquillement sur la Happy Beach. Voilà, ce sera safe. On va monter la tente tout de suite. Comme ça, quand on sera en train de triper, on pourra rentrer tranquillement se coucher. On n'aura rien à faire. Et je lui dis, allez, go, on le fait. Et du coup, il me donne ce petit triangle comme ça et je lui dis, mais je fais quoi avec ça? Je ne sais même pas comment ça se prend. Enfin, je mets juste sur ma langue, je l'avale. Et il me dit, oh, tu peux l'avaler, on s'en fout. Donc, j'avale le truc. Et il me dit, par contre, maintenant, il faut aller, go, on va à la plage parce que dans une heure, ça monte. Quoi. Au bout d'une heure, l'Américain, il me dit, ouais, ça commence à monter là. Et moi, je suis là, mais rien, quoi. Mais je ne sens aucune différence. Au bout de 2 heures, mais toujours rien. Et il me fait... Ce serait quand même pas de bol que tu fasses partie des 3% de gens chez qui le LSD n'a aucun effet. J'étais dégoûtée, quoi. Du coup, on se couche, on regarde les étoiles et tout, et je lui fais dit, c'est normal que les étoiles, elles tremblent. Et là, mais il lance un « ça y est, elle plane !» comme ça vers le ciel, très dramatique, genre « mon Dieu !» quoi. Il me dit « mais c'est fou, ça t'a pris 2 heures !» Je vois juste les étoiles qui tremblent, et je lui dis « mais si c'était que ça, c'était pas la peine, quoi. » Il me dit « non, mais c'est normal, ça, c'est parce que ça commence. » Et puis en fait, et c'est vraiment, c'est par étapes. À un moment, en fait, le cerveau commence à reconnecter un peu tous les câbles, mais bizarrement. Il cherche à faire des patterns, des schémas, des choses très régulières. Et vraiment, je regarde le ciel et je lui fais, C'est quand même dingue que je me sois jamais rendu compte que les étoiles formaient une spirale parfaite. Parce qu'elles ne font pas une spirale parfaite. Mais sur le coup, je voyais vraiment une spirale au-dessus de moi. Mais c'était fou. Et il commence à me dire, vas-y, ferme les yeux pour voir. Et puis là, j'entends tout. Je commence à entendre le sable qui grince, les grains de sable qui grincent les uns sur les autres dans le vent et tout. Le bruit des grillons commence doucement à ressembler de plus en plus à un son, mais électronique. Vraiment, on dirait un son de synthétiseur. Et là, c'est le moment en fait, où je commence à angoisser. Je dis, oh mon Dieu, c'est la preuve. On est dans une simulation. C'est une simulation virtuelle. Le son des grillons, il n'est pas naturel du tout. Il n'est pas naturel, c'est vraiment un son électronique. Il me dit, oulala, attends, viens, je vais t'emmener, on retourne près du feu. On ne va pas te laisser dans cet état-là, ce n'est pas une bonne idée. Donc, il me prend, il m'emmène voir Flo. Et alors là, je ne me souviens pas de tout ce qui se passait, mais apparemment, on était en train de se balancer comme ça, comme des algues à côté du feu, en mode genre, on est le feu. Vraiment, on était fous. Je ne sais pas du tout comment je suis rentrée à la tente. Mais en tout cas, je me réveille le lendemain matin. C'est ma dernière journée à Finisterra. Et du coup, l'Américain, en fait, il me promène un peu toute la journée. Il me prend par la main. Moi, je le suis comme ça, je dis rien. Il passe toute la journée à me promener d'un coin à l'autre de Finisterra, à me poser dans un coin avec mon livre et à aller discuter. Je ne sais pas ce qu'il magouille là avec tous les autres, mais il va voir un par un tout le monde. Et il me repose sur la plage et moi, je lis. Avec la lumière du coucher de soleil, tant qu'il y a de la lumière. Et finalement, je lève les yeux et je le cherche des yeux en mode genre, mais qu'est-ce qu'il est encore en train de faire, avec qui il parle? Et là, je le vois, accroché, mais façon Spider-Man, sur une falaise, comme ça. Et il est en train de poser une petite bougie chauffe-plat, allumée. Et en fait, tout le monde est occupé comme des petites abeilles, en train de mettre des petites bougies chauffe-plat. Ils en ont allumé à peu près 150 sur toute la falaise. C'est une vision absolument féerique, c'est magnifique. Il y a le feu et il y a toute la falaise est couverte comme ça de petites lumières et tout le monde qui est en train de les poser. Et à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et juste devant moi, il y en a deux qui sont en train de discuter. Il y en a un qui me dit, mais quelqu'un est mort. Et il lui dit, non, c'est l'Américain, c'est le dernier jour de Nathalie. Du coup, il voulait faire ça pour son dernier jour et tout. Et je comprends qu'en fait, toute la journée, il a magouillé, il a demandé à tout le monde de l'aider à installer les bougies très vite. Et là, je fonds en larmes. Il se trouve que c'était le moment où il posait quasiment la dernière. Donc, il arrive vers moi. Il a un grand sourire. Il est fier de ça. Il est fier de lui. Et il fait tout un show. Une fois de plus, il est en spectacle. Il est content. Il a fait son grand geste romantique, comme il appelle ça. Il est en mode genre, ah bah voilà, elle pleure et tout. Et moi, je dis, oh, dis pas que je pleure. C'est bon, laisse-moi tranquille. je suis très, très, très touchée. Vraiment, on aura tout eu ce soir-là. En plus, donc c'était un peu l'apothéose avant que je parte, ce qui était vraiment, encore une fois, des très, très beaux souvenirs. Et bon, on ira se coucher, du coup, avec l'Américain enlacé une dernière fois. Et puis, le lendemain matin, je vais dire au revoir à tout le monde. Je leur dis un grand merci pour tout. Puis, à l'Américain, du coup, jusqu'au bout, on se tiendra la main. Il m'avait écrit un mot sur une carte postale qu'il avait achetée à Finisterra, qui est très grandiloquent. On dirait qu'il a piqué les phrases « séduction pour les nuls » sur Google. Mais bon, l'attention est là, donc c'est mignon. Moi aussi, je lui avais écrit une petite lettre que j'avais cachée dans ses affaires. Et du coup, voilà, je prends la voiture et je pars et je pleure. Mais les 3 heures de retour à Porto, je pleure, quoi. J'arrive directement à l'aéroport. Je rentre dans l'avion, je m'assois enfin. Et là, même si j'ai pleuré pendant 3 heures, là, c'est le moment où je réalise parce que je reviens brutalement à la civilisation. Et je me rends compte que je pue. Mais je pue. Pendant une semaine, j'ai dû prendre 2 douches. J'ai toujours ma tenue de hippie, là, ma jupe Goa fashion, mon bandana pourri, mes cheveux pleins de sel de mer. J'ai honte. Du coup, dès que l'avion est un peu décollé et qu'on a le droit de se lever, je fonce aux toilettes. Je prends des vêtements dans mon sac, que du coup, mes vêtements de bourgeoise que je n'avais pas utilisés de la semaine. Je fais une toilette comme je peux et tout. Et je reviens m'asseoir un peu rassérénée en me disant « C'est bon, ok, je peux revenir à la civilisation à peu près ». Et en fait, je pleure encore un petit peu parce que je viens de nettoyer en fait de moi tout ce qui avait fait de moi une hippie. D'un coup, je suis revenue à moi. Je suis redevenue, moi, petite bourgeoise qui prend l'avion, qui rentre pour aller faire son projet, se reconnecter, le digital et tout. Et c'est affreux, en fait. Je rentre donc à Bruxelles. Je retrouve ma petite vie. L'écart est tellement fort entre les deux, c'est fou. Et en même temps, tant mieux parce que je me trouve emportée dans ma vie de nouveau dans ce tourbillon et ça ne me laisse pas trop le temps de m'apitoyer sur mon sort. Mais j'ai ce côté où, comme je n'ai pas fermé la parenthèse, que je sais qu'il va m'envoyer des messages, qu'effectivement, il m'envoie des messages, je reste un peu connectée à Finistère. Je sens quand même que, autant moi, j'ai vraiment ce besoin de rester connectée, donc j'envoie plein de messages. Et lui, il me répond à peine. Au bout de 2-3 jours, ça commence à m'agacer sévère. À un moment, je lui écris un gros paragraphe comme ça, où je lui dis, écoute, je ne suis pas un distributeur de bonnes ondes. Moi, je t'envoie des messages, tu me réponds à peine. J'ai besoin de toi un petit peu aussi. Le retour à la réalité, il est rude. Et là, il m'envoie une photo de lui avec des bandages sur tout le visage. Et il me dit, je me suis fait mordre au visage par un chien. Je suis désolée, j'ai vu ton message, mais j'étais à l'hôpital, je ne pouvais pas répondre. Moi, de nouveau, je me sens me recroqueviller sur moi-même en mode genre, oh là là, mais pourquoi est-ce que je suis ça? Je suis capricieuse. Oh, mais pourquoi je fais ça? Oh là là, je pense qu'à moi, le pauvre, il est à l'hôpital. Et il finit par repartir du coup aux États-Unis. Et quand il arrive là-bas, je me dis, bon, c'est les retrouver avec ses parents et tout ça, il n'aura pas trop le temps, donc je comprends. Mais après, je savais qu'il partait pour son futur job saisonnier, tout ça, donc il avait beaucoup de routes. Et il continue de me mettre des vues sans jamais répondre. Et donc, je finis une fois de plus par lui envoyer un grand paragraphe en lui disant, ça ne va pas du tout, je ne suis pas d'accord, cette situation ne peut pas continuer. Tu ne me demandes jamais, moi, comment ça va, c'est pas normal. Pour lire les messages, il y a du monde, mais pour me répondre, il n'y a plus personne. Et là, il m'envoie un message hyper énervé. En mode genre, non mais tu comprends pas, moi je vis le moment présent, j'ai pas le temps pour ces trucs-là, franchement répondre à des messages c'est en bas de ma liste des priorités. Sauf que les messages c'est tout ce qu'on a, donc quand il me dit ça, je comprends, tu es en bas de ma liste des priorités. Donc je le prends hyper mal, je lui envoie un dernier message assassin et je le bloque. Il m'enverra un email qui sera à la fois un peu dans le reproche passif-agressif, et en même temps bourré de phrases, mais tellement grandiloquentes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est parole de Dalida. Ou mais alors, il me sort des trucs genre « tu es tel le vent sur les dunes qui fait danser les étoiles »,« oui, je t'aime plus que 150 bougies réunies sur une falaise ». Et alors, le truc qui m'achèvera, « si je pouvais être avec toi là tout de suite, je me couperais les deux bras et les deux jambes ». J'ai dit, il se fout de ma gueule, il est déjà pas capable de me prêter ses pouces deux minutes pour répondre à un texto. Il veut me faire croire qu'il va se couper les jambes pour être avec moi. En fait, j'explose de rire. Et j'explose de rire en me disant, mais c'est ridicule. C'est ridicule, c'est tellement gros, c'est tellement grandiloquent. Et je me rends compte qu'en fait, il a peut-être toujours été comme ça. Mais juste que moi, j'y croyais pendant tout le temps, il me le disait. Mais là, maintenant que je suis un peu énervée, que j'ai autre chose à penser, et que je suis un peu revenue dans le pragmatique de la réalité du quotidien, je me rends compte à quel point c'est gros, quoi. Il en a fait tellement des caisses que je ne pouvais même plus lui en vouloir, en fait. Je me dis, allez, je vais envoyer... J'ai pas envie de rester sur un message assassin de ma part et sur ce truc totalement ridicule de la sienne. Donc, je le débloque et je lui demande son adresse. Et moi, je lui fais une carte postale. Et puis, 3 semaines plus tard, je reçois la carte postale en retour. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le débloque et je lui redemande l'adresse? Je lui dis, bon, allez. Donc, je le débloque et là, je vois sur son Facebook... Il y a un message, en gros, comme ça, avec les dégradés, machin, où il y a écrit « Je suis tellement content, ma copine française va venir me voir aux US. » Et moi, je me dis « Mais il débloque ou quoi? Jamais je vais pas aux US, moi. » Là, je fais ce qu'on aurait tous fait. Je passe en mode stalker, FBI. Je commence à regarder tous les messages. Tous. Et je comprends, en fait, qu'il y avait cette fille qui lui laissait des commentaires énamourés avec des émoticônes cœur, etc., sous des photos de lui. Qui disait « Oh là là, t'es trop classe !» et tout. Et moi, ça me faisait gentiment sourire, parce que je lui disais « Oh, encore une qui est tombée sous le charme, c'est mignon, mais il est avec moi. » Et non, en fait, il n'est pas avec moi. Il est avec elle. Et moi, j'étais en plus. Et je me dis « Mais en fait, il est à Finistère et il est resté si longtemps parce qu'il a dû vivre un truc avec elle. » Pourquoi, à ce moment-là, il a commencé à me renvoyer des messages pour me demander de venir? Et là, mais ça fait clic dans ma tête. Et je me dis, oh, le salaud, il m'a eu. Il avait besoin de moi parce qu'il avait plus de thunes et que moi, j'avais tendance à pas compter. Et du coup, ça l'a arrangé. J'étais sa sugar mama. J'étais vraiment sa sugar mama. Là, ça fait mal à l'ego, quoi. On se dit, j'étais bête, quoi. Et je me rappelle de cette nuit en Espagne et je me dis, mais c'est horrible. Parce que soit c'était lui qui faisait semblant et c'était horrible pour moi, et vraiment il m'utilisait, soit il s'est senti forcé de passer cette nuit-là avec moi en échange de l'argent que j'ai distribué, et du coup c'est horrible pour lui, dans tous les cas, c'est glauque. Mais au final, je pense qu'il a voulu essayer, je pense qu'il avait vraiment des sentiments amicaux pour moi. Je pense que sincèrement, on s'aimait beaucoup. Mais clairement, il était tombé amoureux de cette autre Française quand il était à Finistère. Et quand j'ai débarqué, il s'est rendu compte que ça ne devait plus être pareil. D'où la gênance. Ça aussi, c'est une question. Enfin, on commence à psychoter. On se dit, mais est-ce que tout le monde était au courant? Est-ce que moi, j'ai eu l'impression d'avoir réussi à m'intégrer et tout ça, mais ça se trouve, ils se foutaient de ma gueule dans mon dos en disant que j'étais vraiment trop conne et que j'étais une bourgeoise. Puis je me suis dit, non, mais quand même pas. À mon avis, ils devaient se penser qu'ils devaient avoir deux lièvres à la fois, quelque chose comme ça. Ils n'ont pas vendu la mèche parce que c'était pas leur place. Et les gens non plus n'ont pas fait semblant. Je pense que c'était une expérience très sincère et très jolie. Et puis, j'ai claqué beaucoup de sous. Mais au final, si c'était vraiment un truc qu'on pouvait acheter, faire une expérience hippie comme ça, je pense que le prix valait largement l'expérience. Donc bon, j'ai littéralement vécu la fable du corbeau et du renard, où un flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et c'était un gros fromage, mais le Jean valait la chandelle. On a tous ce rêve de tomber sur une personne qui va nous prendre par la main pour nous faire vivre des aventures dont on rêve mais qu'on n'ose pas prononcer. Et moi, j'ai eu cette personne qui arrivait. C'est pour ça que je dis c'est un troubadour, c'est un conteur, c'est le maître du jeu, en fait. Il nous emporte dans son univers et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, je me souviens que les 10 premières minutes, c'était fini, j'étais sous le charme. Je ne sais pas s'il m'a hypnotisé, s'il m'a ensorcelé, c'était du voudou, je n'en sais rien, mais ça a fonctionné. Dès l'instant où je l'ai vu, c'était fini, j'étais prise dedans. Et c'est pour ça que je dis, même si je me méfierais, là, comme ça, à froid, je me dis, je me méfierais s'il revenait, mais il vient à ma porte, c'est fini, je suis cuite.
Cet épisode de Transfert a été réalisé par Lison Verrier. La musique était de Maxime Daoud et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Merci à Adélie Pojman-Pontet pour son aide à la production. Transfert est un podcast produit par Louis Media pour Slate.fr. Vous pouvez continuer de nous suivre sur iTunes, y laisser des commentaires et des étoiles, sur le site d'Audible, notre sponsor, sur Google Podcast, SoundCloud, YouTube ou sur les comptes Instagram @transferpodcast et @chapudelot et sur les réseaux sociaux de Slate et de Louis. Et si vous avez des histoires à nous raconter, écrivez-nous à podcast@slate.fr. À très vite.
C'est encore Ketevan d'Audible. Cette écoute vous a plu? Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.